13h13, Louis Gauthier est dans la place, qui met de la vie un peu, ce Louis-là, ça n'a pas de bon sens.
Yes, sir.
T'as du gaz.
Yes, sir.
À un âge vénérable, t'as autant de gaz.
Oui.
Parfait, ça.
Il a mis sa chemise estivale aussi, qui va avec son bronzage très avancé sur le nôtre.
Oui.
Ben, garde, fais-moi Brad Pitt, qui va être dans F1.
C'est ça. Malgré
en
que...
Pascal.
Ouais. Brad Pitt, je sais pas, on dirait qu'il a pris un coup de vieux.
Non.
Non?
Non.
Il a mon âge.
Il a 61.
Ouais, mais je veux dire... Ouais, mais il a été jeune longtemps, là.
Ben, il a été jeune...
C'est quoi ton point, mettons?
La jeunesse.
C'est qu'il est plus vieux que ton père.
Ça, c'est ton point.
Tu peux pas le présenter à ton père?
Il y a pas de problème. Il y a toujours une exception à la règle.
T'en as-tu parlé
avec ton père? Il écoutait tantôt, ben oui. Là, mon père, là, je sais pas s'il écoute encore, mais il a pas son mot à dire, là. Il y a toujours une exception à la règle.
Ça te fait, il fait un chum pour aller à la paille.
S'il est smart, là, Brad Pitt, mettons.
Ouais.
Ouais.
Mais
tu veux pas t'embarquer là-dedans.
Pourquoi?
Ben non, pas Brad Pitt.
Pourquoi?
Voyons donc. Tu vas, ton âme va être éteinte dans sa popularité.
Mais j'ai pas besoin d'être plus populaire que lui.
Non, j'ai pas. Non, t'as besoin d'avoir ta place.
Mais à son âge vénérable.
Vous pensez Brad que Pitt, je vais être traité comme un petit déchet?
Je sais pas. Mais à son âge vénérable, Brad Pitt, tu penses-tu que ça marche encore?
Mm.
Louis, ça fonctionne.
J'ai l'impression que tu dois l'avoir entretenu.
Toujours. La liste est longue, mais il y en a seulement une élue.
Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe avec l'Iran?
Hey,
qu'est-ce
hein?
qui se passe avec Israël? Ça se bombarde d'un bord et l'autre. Puis là, les menaces commencent à être de plus en plus présentes concernant mm-hmm. le fameux leader suprême de l'Iran, c'est-à-dire...
Ali Khamenei.
On sait où t'es. Arrête de faire chier, parce que sinon on va passer à un second niveau d'attaque.
Et tu sais que les frères musulmans pensent à le tasser, hein? Parce que même que...
Quand les frères musulmans te tassent, là, est-ce que ça veut dire te tuer, mettons, te pendre, te fusiller? Ça?
Ils vont lui parler, puis ils vont l'amener dans une retraite fermée. Pour, ça va se faire de façon très subtile quand tu changes un leader spirituel là, dans les endroits où ils ont main mise, comme l'Iran. Là, présentement, Ali Khamenei ne contrôle pas la situation. C'est sûr que l'Iran a frappé énormément Israël, puis qu'on était surpris en fin de semaine de voir la ville de Rafah se faire poudrer de même. Mais quand tu as un bouclier de protection, de missile, la seule façon, c'est comme ça, c'est comme une vitre par balle. À force de tirer dessus, là, à 20 fusils, à un moment donné, il y a quelque chose qui passe. C'est la même chose qui est arrivée. On sait que l'Iran a l'arme supersonique, pareil comme les Russes. On sait que l'Iran est le pays qui a commandité l'attaque du 7 octobre, il y a 2 ans, pour entrer par l'Égypte, pour aller frapper par la bande de Gaza Israël, les kibbutz là, qui étaient en banlieue. On sait tout ça. On sait que depuis 20 ans, les conseillers ou les vérificateurs spéciaux de l'ONU qui doivent aller vérifier le programme nucléaire de l'Iran se font tout le temps rabouer à la frontière, tu rentres pas ici. Donc, c'était rendu un secret de polichinelle, là, que oui, ils développent l'armement nucléaire.
Mais ça serait impossible que ce soit civil seulement. Pour produire de l'électricité, exemple.
Non, c'est impossible. Écoute.
Parce qu'on nous disait la même chose, puis là, j'essaie de contrebalancer. On nous disait la même chose pour l'Irak. Là. Il y a des armes de destruction massive, il faut y aller, il faut envahir l'Irak pour finalement se rendre compte qu'on voulait juste faire un changement de régime puis tasser le Saddam Hussein de là. Mais par la suite, quand il y a eu enquête, il n'y avait pas d'armes de destruction massive.
Irak, c'est parce que Saddam Hussein commençait à perdre la tête, puis il fallait le tasser, puis il ne l'a pas tassé lui-même. L'Iran, c'est autre chose. L'Iran, c'est un pays. Puis, souviens-toi ce que je vous ai dit, le 4 juin, c'est un pays qui commandite.
Oui.
N'attaquera jamais directement. Je te donne un exemple. S'ils ont la bombe nucléaire, ce n'est pas l'Iran qui va lancer la bombe nucléaire. Ils vont vendre, ils vont la commanditer à un groupe terroriste. Qu'est-ce qu'il y a comme groupe terroriste dans ce coin-là? L'Hezbollah, la Hamas, parce qu'ils sont considérés comme des groupes terroristes.
Exact. En gros, tu veux dire que c'est eux qui vont faire la sale job parce qu'ils n'en ont rien à faire.
Oui. Puis là, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? On ne sait pas qui va la bombe à pétrer, mais on ne sait pas de qui ça viendrait, parce que ça viendrait par un groupe qui a été commandité. Ça va prendre une affaire comme 5-10 ans, comme ça a pris dans le temps de retrouver notre ami qui s'est fait poudrer après 2001.
Tu parles d'Oussama Ben Laden?
Oussama Ben Laden.
L'affaire, c'est
ça va prendre du temps de même, parce que Oussama Ben Laden, au moment où il a commencé à monter son groupe, il n'avait pas l'argent, il était commandité, il y a eu des milliards, il était armé.
Elle est là, la question, Louis. À quoi ça sert à ces groupes-là d'accepter ce genre de travail-là et de garder l'anonymat? Parce que ça leur donne quand même le gros bout du bâton de dire, à un moment donné, ben c'est eux qui avaient commandité l'attentat, c'est eux qui ont commandité cette violence-là. Est-ce qu'ils se gardent ça dans leur poche ou encore c'est vraiment l'argent qui mène leur monde? Ou...
Pascal, le plateau de Golan est présentement occupé, une partie du plateau de Golan est occupée par des gens qui n'ont pas d'affaires là, à leurs yeux, ce sont les Israéliens. Ça fait 1000 ans qu'ils veulent les sortir de là, ils vont finir par les sortir, ils veulent les sortir de là, ils vont tout faire. C'est pour ça que l'Iran s'en est pris à l'Arabie saoudite lorsque l'Arabie a signé des ententes commerciales avec Israël. C'est pour ça que l'Égypte a joué un peu mollo, puis c'est par l'Égypte que les armes sont rentrées pour le 7 octobre. C'est drôle, hein? On ne parle pas de l'Égypte présentement, mais l'Égypte a eu un rôle dans le déclenchement de ce conflit-là qui va faire bientôt 2 ans. Mais on n'en parle pas. Là, l'Iran se trouve coincé avec les menaces de Donald Trump de l'autre côté qui dit « Je vais-tu intervenir? Je n'interviendrai pas. » Il joue juste avec la menace.
Parce qu'Israël n'a pas les missiles nécessaires pour creuser le sol puis aller détruire la fameuse centrale nucléaire avec les centrifugeuses.
Non, non, mais écoute, premièrement, c'est dans des montagnes, c'est très, très profond, c'est très protégé.
Mais les États-Unis l'ont, cette fameuse bombe-là.
Ils le savent dans quel endroit, dans quel secteur ça se trouve. Là, ce que Israël a fait avec le Mossad, c'était de détruire les moyens de communication. Ils sont allés frapper des généraux iraniens, des gardiens de la Révolution. Ils sont capables d'aller frapper. Puis, il ne faut pas s'inquiéter avec Israël, parce que Israël, écoute, le Mossad, là, c'est très sophistiqué comme organisation. Souvenez-vous, là, en 1947, c'était l'armée qui s'occupait, les services de renseignement de l'armée. Arrivent les Jeux olympiques de 72, on sait ce qui est arrivé, il y a des athlètes israéliens qui ont été assassinés par des terroristes palestiniens. Tout de suite en partant, on a formé le Mossad dans l'état actuel des choses, puis a énormément évolué. Le Mossad n'a pas d'âme. Le Mossad, on a vu, ils ont fait sauter des cellulaires, des pagettes, name it, ils sont capables de rentrer. Pour qu'ils aient attaqué Téhéran comme ils l'ont fait au cours du week-end, c'est parce qu'ils sont extrêmement très bien informés. Puis eux, ils l'ont l'information pour savoir où c'est. Présentement, Ali Khamenei, son siège de Ayatollah, de chef suprême des gardiens de la Révolution, est en jeu. Parce que si ça bouge encore, si on se fait encore frapper, là, ils vont mettre quelqu'un de plus radical, de plus ultra-républicain, là, qui appelle eux dans leur coin. Puis lui, il va peut-être peser sur le bouton, puis il dit « on va attaquer ». Puis là, ben Ali Khamenei, ce qu'il a dit tantôt, il a dit « là, les Américains sont mieux de ne pas se lancer là-dedans, parce qu'on là, on va aller attaquer les pays où l'armée américaine se situe ».
Et ça, Trump ne tolérera pas ça.
Non, bien, si ça arrive, c'est parce qu'il ne veut pas... Donald Trump, il a dit « faudrait que tu abdiques, une reddition totale, t'abandonnes, t'arrêtes et tout ça, un pacte de non-agression signé, il veut rien savoir. Khamenei veut rien savoir de ça. »
C'est parce que là, c'est deux têtes qui s'affrontent avec leur façon d'aller jusqu'au bout des choses. Là, t'as un Donald Trump, en plus, qui a de l'ego surdimensionné, puis eux, ont rien à perdre, puis ils veulent absolument pas perdre l'image de puissance terroriste, l'image de puissance violente qu'ils ont depuis le début. Les deux, soit Donald Trump, et, bon, je vais même dire plus que ça, là, ceux qui sont dans le conflit actuellement du côté du Moyen-Orient veulent garder l'image de puissance et de force qu'ils ont depuis le début. Donc, il n'y a personne qui va laisser faire une attaque. Il n'y a personne qui va arrêter en disant « Ah, ben là, si tu me menaces, je le ferai pas. » Parce que tu perds énormément de crédibilité aux yeux de l'international si tu as à faire des « package deals » ou encore que tu as à négocier des choses.
Mais c'est l'Iran qui contrôle tout ce qui est musulmans dans ce territoire-là. Ils n'ont pas aimé ce que l'Arabie saoudite a fait, n'ont pas aimé le fait que l'Égypte a ouvert les portes, mais quand ils ont vu que ça débordait, ils ont décidé de fermer puis de s'éloigner du pouvoir spirituel de l'Iran. Mais l'Iran, c'est le chef qui contrôle tout ce qui est islamique de la région de l'islam partout au Moyen-Orient. Et là, présentement, l'Iran se rend compte qu'il est en train de perdre le contrôle, puis ce n'est pas normal. Quand ils ont attaqué le 7 octobre, ça devait avoir réglé en dedans d'un an dans leur tête à eux. Un an, ils réindiquaient Israël, le peuple israélien de la carte du plateau de Golan. C'est pas arrivé. Là, on arrive à la deuxième année. C'est rendu qu'ils se font attaquer. La Syrie dans le nord s'est fait attaquer. T'sais, tout le monde se fait attaquer. Partout où lui, l'ayatollah Ali Khamenei avait le pouvoir, avait le contrôle. Il est en train de perdre le pouvoir dans toute cette couronne qu'il y a autour de l'État d'Israël.
Mais ils vont se détruire et ils vont se battre jusqu'à la fin. Juste pour pas perdre la face. Mais c'est un peu la même chose du côté de Donald Trump, là.
Mais c'est parce que c'est des frappes ciblées de la part d'Israël, parce que Israël pourrait faire un beau gros stationnement là. Actuellement, Israël contrôle les airs de l'Iran. Là. C'est plus l'Iran qui contrôle en haut, c'est Israël qui est là, qui est autour. 200 avions qui sont rentrés avec des drones. Puis dans les dernières heures, c'est 50 avions qui sont rentrés pour faire d'autres frappes. L'Iran perd vraiment la face dans cette
situation.
Israël, c'est un des pays les plus développés technologiquement. Faut pas l'oublier, là.
Je vous annonce que le Mossad sait très bien où se trouve le puits de missiles qui est à peu près à 175 km au nord-est de Téhéran. Ils le savent, c'est là. Est-ce qu'ils ont l'armement pour aller attaquer? Ça prend du furtif, ça prend énormément de pouvoir parce que c'est sûr que c'est une région qui est énormément protégée. Ils en ont un bouclier antimissile dans cette région-là. Donc, c'est de savoir est-ce que les Israéliens sont assez développés technologiquement au niveau militaire pour aller percés dans ce coin-là, où ils ont besoin de l'aide de l'OTAN, dont notamment les États-Unis.
Ouais, mais l'OTAN n'embarquera pas là-dedans, ça va envenimer le conflit, mais peut-être que Trump pourrait confier la fameuse bombe là, qui pourrait aller chercher les centrifugeuses qui sont
peut-être
vraiment
peut-être que Donald Trump va faire la même parce chose que Khamenei, il va commanditer peut-être.
Parce que, tu sais, ce qu'on a mentionné, c'est que simplement les coupures de courant qu'il y a eu ont pu endommager les centrifugeuses qui travaillaient pour le nucléaire.
Ça dépend parce qu'ils ont quand même des gros génératrices là, qu'on va appeler. Là. Ils ont quand même une centrale nucléaire directe. C'est sûr que lorsqu'ils ont coupé les centrales électriques, on va appeler, c'est sûr qu'il y a une deuxième partie qui est embarquée. Tu sais, ça a fait un cut-off, puis là, les génératrices sont embarquées. Maintenant, est-ce que les génératrices peuvent supporter pendant une semaine ou deux semaines le besoin en énergie que la centrale a de besoin? Ça, c'est une autre chose. Donc, ils doivent réparer, ils doivent... est-ce qu'ils ont du charbon? Est-ce qu'ils ont quelque chose pour faire rouler les cœurs même du nœud nucléaire là, pour la production? Ça, on le sait pas, on n'est pas là. Mais c'est sûr que là, présentement, il faut vraiment éradiquer cette menace iranienne-là. Puis moi, ce que je trouve drôle, c'est les gens qui sont pro-palestiniens qui font des menaces, comment ils se sentent aujourd'hui envers les Iraniens qui attaquent, puis qu'on se rend compte que c'est eux qui ont parti le party dans la bande de Gaza. Parce que, tu sais, le nœud de l'histoire est là. J'espère qu'on ne verra pas des drapeaux iraniens se promener à Montréal puis partout au Canada en support aux gardiens de la Révolution. Parce que...
À Montréal, on,
ben non, mais
bizarre,
quand
on va certainement
péter,
voir ça.
Tu veux pas que ça nous pète dans la face. Tu veux pas qu'on soit victime au Canada d'attentats terroristes.
On a des acteurs qui se promenaient dans les rues à Montréal avec des drapeaux du Hezbollah. Là. Souviens-toi. Là.
Ben oui, je sais.
Elvis Gratton, ça te dit quelque chose?
Oui, mais il y a des drapeaux iraniens, ça passera pas le test, là, je t'annonce.
Ah, hey Colin, mets-moi pas au défi. Je suis à peu près certain que ça va se faire dans les prochaines semaines. Félicitations aux Panthers de la Floride pour leur deuxième conquête de la Coupe Stanley de suite et bravo à Sam Bennett pour le Conn Smythe. T'as été plus vite que tout le monde, toi, hier?
Oui.
On était en deuxième période. T'avais déjà donné la Coupe Stanley aux Panthers.
Oui.
Hein? Parce que là, je vois ça. Moi, j'étais chez nous. Puis là, je dis, tabarouette, comment ça? Lui, il compte déjà en chat. Ben oui. Ben, c'est parce que moi, j'ai pas le câble. J'ai comme une clé USB qui me donne le câble. Puis des fois, je suis quelques minutes en retard.
Il faut reconnaître ce qui est arrivé. C'est une équipe qui était vraiment construite, qui était vraiment là. Écoute, Edmonton avait une chose à faire, c'est de gagner la bataille le long des bandes et de s'assurer que Drysdale et McDavid ne soient pas bloqués comme ils ont été bloqués. Lorsque tu regardes l'ensemble du jeu, c'est 340 minutes de possession de la rondelle contre même pas 90 minutes pour Edmonton pendant la série. Donc, tout était là, tout était décrit.
Fait que t'as fait ta Jojo Gauthier, puis t'as déjà donné la Coupe Stanley aux Panthers hier, alors qu'elle était pas
encore
gagnée.
C'est peut-être l'analyse d'un ancien joueur de hockey de haut niveau.
Oh, OK. Bon, voilà, excusez, pardon. Louis Gauthier, chroniqueur international, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine, mon ami.
Bonjour, Kevin.
Bye-bye. Marceau le midi.